Bonjour à tous et bienvenue dans D'Histoire et de Contes, donc D'Histoire et de Contes où des auteurs sont mis en avant. Alors aujourd'hui, dans ce numéro, je reçois Eliane Rejoni, auteure et poète. Eliane célèbre, ce sont vos mots Eliane, bonheur de la nature et nous offre un peu de sérénité avec des mots simples et accessibles. À l'origine d'une douzaine de recueils, Eliane est une auteure féministe, engagée, inspirée par ce qui l'entoure. Bref, Eliane écrit ses révoltes, ses désirs et ses pensées. Alors pour commencer, bonjour Eliane.
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre ville au pied du Glandas. De si beaux souvenirs pour moi.
On peut le voir d'ailleurs sur vos photographies,
oui,
sur vos écrits.
Oui. Alors je vais vous lire un extrait de mon dernier recueil qui est en fait mon premier recueil de nouvelles. Il s'appelle « Les chats et la lune ». C'est le titre de la première nouvelle et je vais vous lire quelques extraits du début. À travers les ombres mouvantes de la garrigue, le chat noir trottinait vers son but. Il se sentait suivi par le regard bienveillant de la lune dont la lumière transparente le guidait loin au-dessus des chênes verts et des genévriers. Ses moustaches effleuraient les tiges parfumées du thym, et il devait parfois bondir pour éviter les branches épineuses des ronces et des genêts scorpions, bien connus pour leurs griffes courtes et acérées, griffes qui valaient bien les siennes. Il aimait sentir la caresse parfumée des tiges du fenouil sur son pelage. Le chemin était long, il le savait. Il s'arrêta cependant pour admirer la pénombre bleue sur laquelle se découpaient les silhouettes arrondies et plus sombres des collines qui faisaient le gros dos sous la lune. De gros bouquets de buis l'entouraient. Il pouvait distinguer le rutilement de l'astre sur chaque menue feuille lustrée. Le chat respira profondément, le nez en l'air, tout écrasé d'émerveillement nocturne. Après avoir avancé longtemps, il perçut des frémissements, des froissements d'herbe qui lui firent comprendre qu'il arrivait enfin. J'ai beaucoup de chats autour de moi. Les chats sont amis des poètes et les poètes amis des chats, effectivement. Je vais vous lire quelques extraits de mes brisures d'obsidienne, qui sont de courts textes et qui résument un peu l'axe de mes écrits, ou je dirais les deux axes de mes écrits, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Une première partie que j'appelle « Chanter le monde » et puis une autre que j'appelle « Changer le monde » entre contemplation et vigilance. C'est ainsi que je définis un petit peu mes écrits. Une fleur s'ouvre et tout recommence. La musique est toujours celle que j'attends. La solidarité transcende les horizons pour faire étinceler ce qu'il reste d'espérance. Dans chaque bonheur éphémère coule un murmure d'éternité. Lorsque s'éveille le matin, embrassé de lauriers roses, tous les rêves sont réalisés. Sous la vague cristal, le sable caresse la nacre, valse lente au courant léger. L'eau s'enroule sur les étoiles, silence de porcelaine. Chaque soir, sur le grand palimpseste bleu, le temps écrit une page de son grimoire, chaque soir. Les pulsions de mort résistent naturellement. L'art de la vie n'est pas donné à tous. Il faudrait seulement changer le cœur des hommes pour ne plus s'effrayer des lendemains perdus. Seulement. Une flamme brille dans la nuit sanguinaire. L'obscurité tressaille au grand rire des ténèbres. Ne crains rien, la planète continuera de vivre au bord des vides mirifiques. Le tonnerre restera seul à vociférer dans les énigmes minérales. La victoire végétale crèvera les yeux vides de nos fenêtres désertées. Et moi, je sourirai sur mon balcon d'étoiles. Depuis la nuit des temps, chaque vague embrasse le sable pour les beaux yeux de la lune. Caresse d'eau douce, charme repenti des souvenirs éteints. J'aime le creux du jour où naissent les étoiles. Si mes yeux ouverts aperçoivent le futur crucifié, pourquoi vos yeux fermés berce-t-il l'imposture? Chevrette follette dans les herbes sèches où craque la chaleur. Fermette de pierre claire, volet bleu refermé.
Et ces volets bleus sont très, très bleus caractéristiques de cette Drôme.
De belle région, oui.
Colorée que nous aimons tant.
Oui, tout à fait.
Vous êtes native de cette Drôme?
Et non. Non, je suis née dans la Loire, à 80 km de Lyon à peu près, dans le nord du Forez. Et très vite, j'ai eu envie de partir après des études à Lyon, des études littéraires. Et mon mari était aussi étudiant à Lyon. Et mon premier désir a été, quand il a envoyé des dossiers pour postuler, j'ai dit non, il faut aller au sud, j'ai besoin de lumière. Et ça fait exactement 40 ans que nous sommes dans la région, c'était en 73. Et 40 ans plus tard, je ne regrette pas. Au contraire, j'ai envie d'aller encore plus au sud. Mais c'est vrai que je suis féministe. Il y a une époque, je disais toujours, mais féministe à visage humain. Et puis maintenant, je dis non, féministe, les féministes n'ont jamais tué personne. Hein, mais quand on est féministe, il faut tout de suite se justifier. Alors moi, je me justifie tout de suite, j'ai 44 ans de mariage avec le même homme. Et réciproquement, ce qui prouve quand même qu'on arrive à mettre ensemble le masculin et le féminin. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'humour et beaucoup de recul, parce que en plus on ne sait pas, après tout on peut divorcer l'année prochaine, voilà, on peut changer d'avis. Mais bon, pour l'instant nous avons suivi un chemin ensemble. Et souvent d'ailleurs, quand je fais des lectures, parce que je fais de nombreuses lectures, souvent je pense à le remercier en disant, c'est vrai que s'il n'était pas là, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Je dirais peut-être le respect mutuel, le respect de la liberté de l'autre, mais chacun à sa place, chacun à sa liberté. Je vais vous lire des extraits de Femmes en quête de dignité. Alors en fait, c'est un petit recueil que j'ai écrit, qui a été édité en 2010 par les éditions Peuple Libre, curieusement. Les éditions Peuple Libre qui sont des éditions catholiques, hein, vraiment. Et puis bon, nous avons réussi à mettre quelque chose sur pied, mais c'est sous forme poétique. Moi, c'est une forme qui me convient, la poésie. Je me suis aperçue que ça marchait bien et que ça touchait notamment les adolescents. Parce que même encore aujourd'hui, je crois que les adolescents aiment encore écrire des poésies. « Le fleuve de nos jours coule sans bruit, jour et nuit, masculin, féminin, soleil et lune. Les oiseaux ne savent rien de nos frontières artificielles, ils chantent seulement les chants du ciel. Chante l'oiseau, toi qui ne sais rien des craintes dérisoires, de nos consciences sélectives, de nos peurs obsolescentes, chante. Le monde est un oiseau. Un oiseau qui a besoin de ses deux ailes, il et elle. Le lien d'ombre. Femme, femme de tous les continents. Un fil nous relie, un fil d'ombre, invisible, tissé de siècles lancinants. Femmes colonisées par les virilités, aliénées et crédules, en air tourmenté. Ordre injuste du monde qui méprise l'âme des deux genres. Comme nos compagnons, nous vivons le chômage, la maladie, l'exploitation, les injustices, mais aussi le viol, les discriminations, les harcèlements, la prostitution, les instincts obligés, le poids des traditions. Lourd le fardeau sur nos sentiers empierrés de discorde, fermés de hauts murs rédhibitoires. Femme bourgeoise, femme sans rien, flamme ou eau dormante, femme de terre-mère, moitié féminine du monde au masculin, sommes toutes égales devant le vieil instinct qui abolit les âmes. Maintenant nous savons. N'abandonnons jamais notre veille des jours, il nous faut espérer et convaincre toujours. Éveiller l'étincelle universelle, rétablir la justice. L'égalité pour chaque identité, le respect réciproque, rassembler les cœurs séparés, faire taire les litanies, briser le fil qui limite. Femmes jeunes aujourd'hui, qui croyaient que tout vous est acquis, apprenez les luttes passées, restez vigilantes, n'oubliez rien. Les femmes ont dû lutter pour conquérir leurs droits, vos droits. Simplement parce qu'elles étaient des femmes chargées du fardeau de l'éternel féminin transmis par l'histoire, écrite au masculin. Le vieil instinct rôde encore, fidèle à tous les temps, qui sème le désordre et les égarements, qui tire sur le fil et tisse les frontières. Long fil invisible qui soude nos destins et devient parfois chaîne au long des continents. L'oiseau s'envole entre ombre et lumière.
Aber la maristi kota stockt war instigator rota solti solti militato solti tato costa bravo alla pinzai no caccia morti tato alla lascia.
Il est important parce que il résume un petit peu la condition. Je vais vous en lire un que j'aime et qui avait beaucoup aussi ému des gens qui s'occupent de ces problèmes-là. C'est la condition de la femme dans des pays où le fil est devenu une chaîne. Comme les yeux du monde, la vraie femme est fermée. Les mains de l'exciseuse tranchent depuis longtemps. Le sable du désert boit les larmes et le sang. Souffrance originelle de filles mutilées. Comme les yeux du monde, la vraie femme est fermée. Ça, évidemment, c'est un réquisitoire contre l'excision qui continue malheureusement à toucher les petites filles, et ce sont des dizaines de millions, c'est énorme. Et ça, vous voyez, c'est le genre de choses qui me révoltent, parce que je me dis, mais que fait le monde ? Une mutilation pareille, c'est abominable, je trouve pas les mots qui auraient assez de force. Et que font les États ? Alors, je sais que l'ONU, quand même, émet des avis. Il faut reconnaître aussi, j'ai des amis qui vont souvent en Afrique et qui me disent, il y a quand même du travail qui se fait, c'est vrai. Mais je trouve quand même qu'on est bien indulgent. Bon, je vais revenir un petit peu plutôt dans nos régions. On entend l'arbre qui tombe. On n'entend pas le blé pousser, dit un sage proverbe africain. Comme l'herbe qui pousse en silence de terre, un fil invisible enserre les vérités. Malgré les lois votées, demeure l'invisible force des mentalités.
Toujours ce fil qui revient.
Le fil, voilà.
Que vous tirez.
Ouais. Hein. J'avais trouvé que cette idée de fil était le plus représentatif, parce que ça ne se voit pas, mais il est là. Au pays des droits de l'homme, une femme est tuée toutes les 60 heures par son mari, son compagnon. Des milliers d'autres restent blessés, meurtris, humiliés. Le monde tourne. Violence récurrente, sans rime ni raison, insulte permanente aux civilisations. Civilisation sans âme ni raison. Nous voyons le fascisme où nous voulons le voir. Pas partout où il est. Nuance, en vérité. Le dictateur machiste n'entre pas dans l'histoire. Et il n'est le héros que de nos lâchetés. On va tout de suite me dire, mais quand même, nos sociétés luttent un peu. Mais je trouve que la lutte contre la violence domestique reste en dessous quand même de ce qu'elle devrait être. Parce qu'on nous a quand même habitués, même si on sait très bien que ça reste toujours nécessaire, à l'antiracisme, mais est-ce qu'on lutte de la même façon contre le sexisme ? Alors, je réponds tout de suite oui, bien sûr, il y a des milliers d'associations, de femmes qui travaillent, mais il faut que ça soit institutionnalisé. Le rose, c'est pour les filles. Le bleu, pour les garçons. C'est joli, c'est mignon. C'est l'éducation. Vanille ou citron. Schéma répété, phrase quotidienne, modèles sociaux et séparation, c'est l'éducation. Les filles sont nées une éponge à la main, vous le savez bien. Elles feront la vaisselle, c'est tout naturel. Objection, c'est tout culturel. Poupée et rose bonbon. Jeux violents, soldats de plomb, trousse de maquillage ou jeux vidéo, panoplie de ménagères ou de cosmonautes, gestion du quotidien ou compétition,
terre à terre ou grands horizons, détermination dans l'obstination. Comportement codé, tout est préparé. Chaque sexe a sa place, extérieur, intérieur, ne pas se tromper.
Et c'est encore vrai de nos jours, hein. Je ne sais pas, vous allez voir aux alentours de Noël, moi je l'avais constaté encore Noël dernier, c'est toujours très 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 traditionnel.
Alors, mode et magazine féminin. Propagande pour femmes objets, frivole. Désirable, folle de son corps, puisqu'au monde mercantile, la femme n'a qu'un seul but, être regardée, et plus si affinité. Papier glacé, photos retouchées, beauté, jeunesse, volupté, publicité. Femme et publicité, couple infernal. Quelques pages cuisine, indispensable. Refus du temps qui passe. Illusoire jeunisme, photo montée, photo menteuse. Un article sérieux, parfois, se glisse entre anti-rides et crème bronzante, car la femme peut réfléchir, si, mais pas trop longtemps. Le culturel revient au galop. L'éternel féminin ne fait pas dans l'intello. La femme est un corps, pas un cerveau. Tournez la page. Dans le mirobolant système ambiant, le modèle dominant veut convaincre que les femmes doivent absolument être liposuccées, découpées, lasérisées, siliconées, déridées, étirées, liftées, piquées, botoxées, surpiquées, dégraissées, blanchies, bronzées, cuites à point, relookées, requinquées, embellies, raccourcies, rallongées, amaigries, raffermies, rajeunis, entre autres, pour accéder à la félicité, pour sauver une apparence. Ah, l'apparence. Les apparences. Les apparences. Le miracle de la vie ne leur suffit pas. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait le petit prince. Le conditionnement profite aux plasticiens. Tout va bien. Les greffes de neurones ne sont pas pour demain.
J'ai fait des textes aussi sur la violence verbale envers les filles et les femmes, qui est toujours d'actualité.
Oui.
Nous entendons même parfois des hommes politiques se lâcher sur Twitter, sur... Ils sont élus, ils représentent la population et ils sont vraiment inconscients, irresponsables. Ils ne se sont jamais posé la question,
je crois.
Humour. Le jour, les femmes rasent leurs jambes. La nuit, les femmes rasent les murs. Hélas, ce n'est pas de moi. C'est une affirmation définitive lue sur un mur lyonnais. Raccourci ébouriffant du statut des femmes. Ça, j'aurais aimé le trouver, ça. Au monde décideur, les hommes sont peu partageurs. Europe, OTAN, ONU, État, Parlement, G8, G20. J'ai mal au féminin. Que des costumes cravates pour diriger le monde et nos destins. Ordre mondial séparatiste. Apartheid sexiste jamais dénoncé. Rien à signaler. Parole d'évangile, parole de télé. Dans quel pays les femmes ont-elles enfin accepté d'accorder le droit de vote aux hommes. Son kimono immaculé a traversé les millénaires. La geisha trottine dans le salon de thé, sur les chemins ailés de mille rêves érotiques. Femme en voile rouge, rit. Les olives pleuvent dans leur tablier. La mer scintille sur l'olivier. Près des papyrus qui bruissent sous le vent chaud, une enfant rieuse porte son petit frère. Le fleuve est calme. Leur sourire d'escarboucle allume les robes rouges et mauves au long de la cordillère. Les femmes en chapeau rient au grand mystère des nuages qui leur glissent des mains. À la plage, filles et garçons attrapent les poissons, la mer en partage. Les dieux des océans ont tissé leur collier de fleurs. Les femmes sourient aux vagues turquoises des lagons qui rutilent sous l'Alizé. Jeune femme à bicyclette, longs cheveux blonds au vent, au long des brumes des canaux, roule en souriant sur les routes égalitaires. Jeune papa berce son bébé, force et douceur d'homme libéré. Talon aiguille et rimmel, femme affairée, femme libérée, dirige son destin sans abîmer son fond de teint. Femme conquérante et sans complexe, défauts et qualités n'ont pas de sexe. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que ce que je disais tout à l'heure, on connaît tous. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'argument qu'on nous renvoie quelquefois. On nous dit, ah oui, mais alors avec vous, mais alors les femmes sont toujours très bien, les hommes... Non, et non, et non, c'est plus compliqué que ça. Mais ce que nous dénonçons toujours, les personnes sensibles à ça, c'est la base de l'éducation qui favorise... Et qui favorisent des situations injustes, qui après vont générer d'ailleurs de l'agressivité et de la violence chez certaines femmes, parce qu'elles ont été frustrées, et les hommes sont aussi frustrés d'un autre côté. Quelque part j'ai un texte qui s'adresse aux mères d'ailleurs, qui dit « Connaissez-vous le prix des fleuves asséchés qui empêchent leurs petits garçons de pleurer ?» Le plus vieux métier du monde, tiens. Non, la prostitution n'est pas un métier. Oui, c'est l'esclavage. L'inconscient collectif fait croire que l'objet a le choix. C'est comme ça depuis toujours. C'est l'ordre des choses. La prostitution maintient la vieille domination symbolique de l'homme sur la femme, nécessaire à la bonne marche du monde et au grand ordre cosmique. Déesse des chemins rouges, au long sari étincelant. Bracelet d'or et peau de terre sur l'horizon qui désespère. Femme d'eau fraîche, femme destin de jour brûlant. Sous la yourte ronde, sous la tente en peau de phoque, les femmes accroupies soufflent sur le foyer et accouchent sans bruit sous les grands ciels glacés. Dans leur 4x4 Mad Max, ces dames friment et se protègent des fureurs oppressantes qu'elles génèrent. Misère. Et oui, tout n'est pas simple. Mère courage abandonnée, aux horizons multipliés, boivent l'écume des quotidiens. Il faudrait seulement changer le cœur des hommes pour ne plus s'étonner des lendemains perdus. Seulement. éteindre les guerres jamais déclarées, au front calciné de tous les scepticismes. Il faudrait seulement ouvrir les yeux des femmes, ouvrir les yeux des mères, mères aliénées par tous les blasphèmes, mères qui forgent les chaînes, transmettent l'aliénation, tissent le fil obscur, mères qui éduquent, mères conditionnées, mères qui pourraient tout changer. Pénitence existentielle de leur nature assujettie aux perceptions faussées des mensonges dégradants, femmes irréfléchies ont transmis leur châtiment depuis trop longtemps. La conscience seule lèvera la sentence. Oui, je crois que tout passe par la conscience. Et quand on parle justement de prise de conscience, c'est très important parce que... Ça avance, on sent que ça avance quand même doucement. Mais la conscience, elle est déjà... Oui, c'est une petite lumière, mais dans une pièce qui a été longtemps dans l'obscurité.
Espérance. Enfin naissent les chants de liberté, sources exaltantes des poèmes jamais écrits. Au soleil levant des hommes apaisés, les roses vont éclore. Et la chaîne se brise, le fil disparaît. Dans le grand livre du temps, le vent des errances tourne les pages sacrilèges. Nous venons de si loin. Les siècles à venir nous attendent. Enfin. Recherche l'équilibre, libre. Répare l'aile oubliée, liée. Pour que les deux ailes de l'oiseau s'épanouissent ensemble dans l'égalité des souffles de l'esprit. Bonheur de l'envol, harmonie féminin-masculin, égalité des devoirs et des droits, sans effacer les différences, la spécificité, sans mauvais genre, sans sexe faible ou sexe fort, sans deuxième sexe, sans galanterie, sans sexisme, préjugés, irrespect, idées reçues, ségrégations, violences et chagrins ont fait assez de dégâts. Hommes et femmes ensemble, face à la boue et aux étoiles. Ensemble. Face à la boue et aux étoiles, nous avançons vers un futur incertain, embrumé de rêves consolants, en chemin d'équilibre cosmique. Entre consciences éveillées et régressions sécurisantes, inquiétude masculine, incertitude féminine, liberté partagée sur chemin inexploré, en quête de vérité, tout reste à inventer. Au-dessus du vertige, nous avançons, en équilibre libre, sur le fil de nos matins, donnant la main à l'autre genre, par-dessus les abîmes culturels, rassemblant nos forces éparpillées, en équilibre, libre, sur le fil de nos destins.
Tous les hommes d'aujourd'hui, tendres et bons, chers compagnons, j'offre toutes les fleurs cosmiques cueillies au bord de la Voie lactée où vole l'oiseau lyre. Bras consolants, bras d'étreinte caresses, ils sont l'honneur des hommes qui acceptent d'aimer, aimer dans les collines de tendresse. En société du tout jetable, la fidélité serait passée de mode. Couple fidèle, triste, réactionnaire, improbable. Les âmes fidèles savourent leur complétude en silence d'eau fraîche, sereines et lucides au monde palpitant. Âmes en quête d'absolu peuvent écrire l'histoire de leurs rêves vécus dans le calme des soirs.
Le voyage extraordinaire, oui. Donc quand j'ai écrit ce texte, nous avions 42 ans de mariage. Oui. Le voyage extraordinaire pour Jacques. Chapelet des jours, les pierres s'égrènent. Chaque pierre fait la montagne. Chaque goutte fait l'océan. Et chaque jour recrée l'amour. Le temps passé ensemble, sous un azur serein ou l'orage inquiétant, jour après jour nous rassemble pour parcourir notre destin. Notre destin, un grand amour pour horizon. La nature se réveillait, c'était la fin du mois d'avril. Et tandis qu'on se promenait, un cœur sauta à Tchernobyl. Bien malin qui s'en aperçut, mais tous les radionucléides nous fondirent joliment dessus, silencieux et insipides. Discrètement, sans crier gare, ils parcoururent le ciel désert. Certains, en passant les frontières, de ne froisser aucun regard. Les responsables du pays furent contraints de l'avouer, le triste nuage parti, nul ne pouvait plus l'arrêter. Marxistes ou capitalistes, nous fûmes tous au même point. Ignorants ou bien atomistes, la pollution allait très loin. Seule la France fut épargnée, si l'on croyait les responsables, et tous nos voisins étrangers se gaussaient bien de cette fable. Promis juré, il n'y avait pas de quoi fouetter un becquerel. C'est alors que vers la mi-mai, il fut mis fin à la querelle. Oui, le nuage était passé. Les scientifiques officiels nous rassurèrent avec brio, affirmant que la vie était belle et que l'incident était clos. À suivre, hélas. Juste heure d'information supplémentaire, l'existence maintenant de mes photopoèmes, où je célèbre la nature avec un petit texte poétique et que j'ai maintenant tiré en carte postale. Ils sont visibles sur mon site parce que j'ai envie de faire partager toutes ces beautés que je côtoie, que nous côtoyons plus ou moins, bien sûr. Et c'est vrai qu'un paysage, laisse des traces dans le cœur, quoi.
Qui était cet enfant? Qui était cette petite Eliane?
Ah, la petite Eliane. La petite Eliane, elle vivait très proche de la nature. Nous habitions une maison en dehors d'une ville, mais on était vraiment dans la nature. Il y avait un pré avec des bœufs, des vaches. Alors moi, je croyais que c'était, quand j'étais petite, en fait, c'était un pré d'embouche, qui est un bien vilain mot, bien sûr. Mais moi, quand j'étais petite, je croyais que c'était toujours les mêmes. Pour moi, c'était des vaches, d'ailleurs. C'était souvent des bœufs, mais il y avait sûrement des vaches. Mais les pauvres, évidemment, je ne savais pas trop leur destin quand j'étais petite. Et j'ai passé beaucoup d'heures dans le jardin à observer. Alors j'étais une petite fille sage, pas du tout rebelle. J'adorais l'école, j'étais très bonne à l'école. J'étais très timide, j'étais très peu sûre de moi. Bon, mes parents commençaient déjà, ils commençaient déjà à y avoir des problèmes dans leur couple, donc je me sentais moins bien. Mais alors, ce qui me réconfortait, c'est que ma maîtresse faisait lire mes rédactions. Elle me dit, bon, allez, tu vas dans la classe de Madame Chassin et puis tu emportes ta rédaction et tu la liras.
Donc déjà, des affinités avec le mot, ouais.
Mais ce qui est terrible, c'est que pendant très longtemps, j'avais complètement oublié ça. Puis c'est une amie d'enfance qui m'en a parlé et ça a réveillé des souvenirs qui étaient bien sûr là, mais que je n'avais pas vraiment... Et peu à peu, si vous voulez, donc j'étais souvent dans le jardin, au bord de la Loire. J'allais promener, on avait un chien, j'allais promener le chien. Quand j'étais un peu plus grande, bien sûr, pas quand j'avais 7-8 ans. Mais vraiment, j'ai passé beaucoup de mon temps au jardin. Quand j'étais petite, j'allais au jardin. Moi, j'adorais aller ramasser les légumes, arroser, l'odeur de la terre mouillée. Enfin, ça m'a vraiment laissé des sensations. Et j'ai toujours voulu être enseignante. Mes parents étaient de conditions modestes. Mon père était à l'époque ouvrier. Bon, il a un petit peu évolué après. Ma maman avait beaucoup d'ambition. C'est-à-dire pour ça que leur couple... Bon. Et voilà, donc c'était un peu difficile. Et moi, je me disais, bon, moi, quand je vais être grande, je vais avoir ma maison à moi. Moi, je vais être maîtresse. Je vais trouver un mari bien. Ce sera bien.
Vous avez réussi votre vie, Eliane.
Oui, mais maintenant, avec beaucoup de recul, je dis, ah oui, mais j'aurais pu faire tellement d'autres choses. Oui, mais bon, c'est comme ça, c'était mon chemin. Et finalement, je suis assez contente de l'avoir suivi. Bon, après, les regrets, les choses comme ça, je me dis, bah, c'est normal, on est tous pareils. Je crois qu'il y a des tas de gens qui disent, ah oui, j'aurais dû... Bon. Oui, ça fait partie en tout cas moi de mon fonctionnement. Et en même temps, je me dis mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup de chance. Dès le départ, j'ai eu quand même cette volonté d'arriver quand même à mes fins, même si j'étais. Oui, c'est ça. J'aime bien faire le parce que j'étais une petite fille timide. J'imaginais pas que je pouvais faire des tas de choses extraordinaires. Mais voilà, je m'étais déjà fait un petit chemin et j'étais contente. Et je n'ai jamais pensé à être écrivain. Ça n'est que plus tard, quand j'ai eu un peu plus de confiance en moi, que je me suis dit, oui, finalement, ce petit don pour l'écriture, je pourrais peut-être le faire partager.
Quel camarade d'école étiez-vous ?
Fidèle, oui. Nous étions deux, trois petites filles, là, très souvent ensemble, oui. Mais je vous dis, timide. À l'époque, c'était les écoles de filles. Donc, il y avait pas le problème de la brutalité, de la violence des garçons que j'ai pu voir après quand j'ai fréquenté les cours d'école. Mais je me dis après coup, c'est peut-être pas plus mal pour moi. Moi qui étais, oui, je crois que les enfants, et puis je l'ai vu après, les enfants qui ont du mal à trouver leur place. Mais en même temps, ça me pose la question, parce que certains disent, ah ben oui, je crois qu'il y a eu des études de fait dans certains pays nordiques qui disaient que les filles réussissaient plus si on séparait les étudiants. C'est sûrement pas faux. Alors, d'un côté, ça me gêne. D'un autre côté, je me dis, c'est le principe de réalité, je ne sais pas. Toujours est-il que, oui, la question que vous me posez, j'y avais déjà pensé. Je me dis, ben oui, finalement, c'est bien que je n'ai pas été confrontée trop à la brutalité, parce que je pense que j'étais fragile. J'étais une petite fille quand même fragile. Oui.
Vous vous compariez aux autres petites filles ?
Oui, je me sentais quand même peut-être moins à l'aise. Je me souviens que j'avais plusieurs petites filles. Je disais, ah, oh là là, j'aimerais bien être comme elle, etc. Ouais. Donc, vous voyez... La soif de reconnaissance souvent vient de loin.
Allez, vous grandissez visiblement une scolarité qui ne vous déplaît pas, loin de là. Vous êtes une bonne élève. Vous avancez avec vos deux, trois amis. À la maison, ça se passe comme ça se passe, visiblement.
Oui,
quelques difficultés à rencontrer.
Oui, mais si vous voulez, je me consolais en allant dans le jardin avec les chats, le chien. Voilà, j'arrivais à me faire mon petit monde.
Votre petite
comme
bulle.
Comme beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Et après, c'est vrai que j'ai passé mon bac en 68. Je l'ai raté.
Mais quand même, alors vous êtes de ces femmes
c'est
qui
du
ont
mérite.
Vu...
Et oui, j'ai eu 18 ans en 68.
Et, oui.
Et ben justement, on a tellement fait n'importe quoi que même... pourtant, en 68, on dit que le bac, on l'a donné. Et je l'ai eu en septembre. Parce que
vous l'avez raté,
la
donc.
La séance de rattrapage, voilà. Et encore, je le dis, c'est parce que j'ai été opérée de l'appendicite et j'ai été immobilisée, parce que sans ça, je ne l'aurais peut-être pas eu.
Oh, moi, je vous imaginais sous LSD avec vos potes.
Eh ben jamais, pas du tout, non. Jamais.
Et justement, dans ces années, là, comment vous évoluez ?
Alors là, donc 68, je passe mon bac, je vais à la fac à Lyon. Et alors là, c'est le bonnet par-dessus les moulins. Très peu étudié. Mais là, on avait vraiment l'impression qu'on enlevait un corset. Et puis enfin, on sentait le goût de la vie sur la peau, quoi. Mais quand même, je suis restée relativement sage. Mais alors, il y avait beaucoup de boum. On a bu beaucoup, c'est vrai. On s'est pas drogué. Non. Je sais pas, j'ai jamais. Non. Mais 68 nous avait libérés, mais pas vraiment, en fait. Parce que c'est ça, on est quand même. On a son vécu, etc. On a bien ri, on s'est bien amusé. Et ça n'a pas duré parce que j'ai connu mon mari donc tout de suite. C'était le 8 décembre à Lyon. quand la fête de la lumière avait une ambiance très, vraiment unique. Quoi. Et donc, on a fait connaissance. Et puis, ben, en fin d'année scolaire, on s'est mariés parce que j'étais enceinte. Voilà. Mes études se sont arrêtées là. La galère a commencé. Parce que là, effectivement, et là aussi, j'écris aussi là-dessus, on mesure, je repars tout de suite, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on voit ce que les enfants d'aujourd'hui connaissent, y compris le pire, y compris tout ce qu'on, nous, on ne savait même pas que ça existait. On ne savait rien à l'époque. Moi, je ne savais pas comment se passait un accouchement. Donc, retour à la réalité, douloureux. Très, très douloureux, très, très difficile. D'ailleurs, bon, j'ai eu un fils et ça a été mon seul enfant, notre seul enfant. Donc, ça a été difficile et puis on n'avait pas non plus, on n'avait pas de situation. Donc, alors à l'époque, on ne disait pas qu'on était en galère, on disait qu'on mangeait de la vache enragée. Ouais. On a mangé de la vache enragée. Nous n'avons pas pu profiter de la toute petite enfance de notre fils précisément pour ça. Mon mari était au régiment. Enfin, c'était vraiment ça aussi. Je pourrais l'écrire sous forme d'une histoire un peu humoristico-tragique. Et il a fallu finalement que nous arrivions en Ardèche, puisque mon mari a postulé chez Lafarge, et il est entré chez Lafarge à Viviers. Et là, nous avons pris quand même une vie plus régulière, et puis après... Voilà. Donc nous avons eu une année très libre, effectivement, mais ça a été fini après. Et oui, mon fils aîné, j'avais 20 ans.
On est en quelle année là ?
70.
70. Ouais. L'écriture arrive bien plus tard. Hein,
Oui. Bon, à l'époque, j'écrivais des poésies que j'ai retrouvées d'ailleurs. J'en ai repris quelques-unes. Et non, moi, j'ai commencé vraiment à réécrire en 86. Donc en 73, nous venons en Ardèche. Ça a été une aventure aussi. Il a fallu que j'ai un poste en Ardèche. J'ai eu un poste pour un jour pour finir de passer mon CAP que j'avais commencé à Lyon. Enfin bon. Et puis, j'ai fait beaucoup de remplacements. Et quand j'ai enfin pu être titularisée, parce qu'à l'époque, moi j'avais fait 9 ans de remplacement. Et à la fin, au moment d'être titularisée, c'était difficile d'avoir un poste dans les lieux où je souhaitais. Et puis on me dit, ah mais les classes de perfectionnement, il n'y a personne. Si tu veux te spécialiser... Je dis, tiens, ça m'intéresse, parce que... Et justement, on s'adressait à des enfants, là, c'était des enfants, en difficulté scolaire, en échec, bon. Et j'ai choisi ça, j'allais dire, presque sans hésiter, en me disant, oui, ça va me plaire. En plus, il y avait une liberté, j'allais dire, parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs, on pouvait être plus... Bien sûr, c'était très adapté. Je dis, oui, ça va me plaire. Puis je pense, après... Longtemps après, je me suis dit, c'est pas un hasard si j'ai choisi ça. Je pense que j'ai dû vouloir réparer des choses de ma petite enfance, etc. Bien. Et je me suis spécialisée. Et puis, en 87 ou 8, je crois, j'ai pris mon poste à l'EREA, donc un établissement régional d'enseignement adapté. On avait des élèves, de 10 d'ailleurs, puisque c'était un recrutement régional. Et là, on s'adressait à des ados. Et là, moi, je me suis régalée. Parce que j'ai un meilleur contact avec les grands qu'avec les tout petits. Et donc là, j'ai eu une carrière qui m'a bien intéressée. Après, mon mari est parti dans le Rhône, donc je l'ai suivi. J'ai eu un poste d'une année. J'ai écrit l'histoire. C'était presque inénarrable, mais je l'ai narré quand même. Mais j'ai mis 10 ans. J'ai mis 10 ans parce qu'avant, je pleurais. C'était affreux. J'ai eu une expérience professionnelle que je ne souhaite à personne. J'ai réussi, j'ai survécu, donc ça doit avoir un sens. Alors, j'ai réussi à l'écrire. Oui, je me dis, j'ai envie de le faire connaître, je ne sais pas sous quelle forme, mais j'ai mis 10 ans à pouvoir en parler sans pleurer. À la fin de l'année scolaire, je dis à mon mari, écoute, quoi qu'il arrive, parce que moi, je voulais continuer à travailler, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais accepté ce poste quand il a été muté, bien. Et je lui dis, écoute, quoi qu'il arrive, je prends un an de congé. Il me dit, ok, je te comprends, bien. Et puis sur ce, crac, il est remuté dans la vallée du Rhône. Nous revenons, alors, je ne vous raconte pas l'effet que ça m'a fait. Ça a été... Bon, et alors j'ai dit, c'est pas grave, un an de congé. J'ai pris un an de congé, j'en ai même pris 2 d'ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Alors je me suis dit, bon, et bien finalement, cette année, elle préparait la suite... Parce que sans ça, je ne me serais peut-être pas arrêtée de travailler, je n'aurais peut-être pas commencé à écrire, il y a peut-être des occasions qui ne se seraient pas présentées comme ça. Voilà, j'ai dit, ça a été du très négatif, mais qui a généré du positif.
Ouais,
voilà, je veux le prendre comme ça.
Un mal pour un bien. Mais en tout cas, ça nous permet à nous, hein, auditeurs, et en l'occurrence moi, animatrice, de profiter de ce que vous savez très bien faire, écrire et retransmettre vos ressentis d'ailleurs, hein, ou vos expériences. Ouais. Moi, j'ai besoin de comprendre comment cet attrait pour la condition de la femme arrive réellement.
Mais justement, au moment de mai 68, moi, alors là, conscience politique entre le zéro et l'infini, rien. Au moment de mai 68, oui, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai, je ne me suis pas tellement appesantie dessus. Mais en fait, moi, le souvenir que j'ai de l'époque de mai 68, c'est bon, il n'y avait plus de cours. Bon, de temps en temps, on est allé faire un sit-in sur la Nationale 7. Bon, mais c'était surtout, on faisait des booms tout le temps. On faisait des booms, on s'amusait. Donc, bon, moi, rien, nul. En fait, j'ai commencé à prendre conscience, j'avais 26-27 ans. Donc j'étais installée, j'étais de nouveau enseignante, mon fils avait 6-7 ans. On a commencé à s'engager en politique avec mon mari. On s'est engagé au Parti Socialiste de l'Ardèche, à l'époque, à Viviers. En 77, j'avais 27 ans, c'est ça. Et je me suis trouvée parachutée responsable des droits des femmes à la Fédération Socialiste de l'Ardèche. C'est ça qui est rigolo, parce que cette prise de conscience est venue petit à petit, mais j'allais dire sans grande conviction au départ, je pense. La preuve, c'est que bon, j'ai accepté cette responsabilité en me disant que bon, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Bon. Et puis quand il y a eu les élections municipales, mon mari s'est présenté sous l'étiquette PS. Mais moi, il ne m'est pas venu à l'esprit que je pouvais me présenter. Vous vous rendez compte? Donc, ma conscience politique, enfin, ma conscience, disons, de féministe, elle est venue au fur et à mesure. Je me rappelle que j'avais découvert un article du Code civil qui disait que chaque personne devait porter le nom qu'il avait à sa naissance. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je porte le nom de mon mari? Il ne porte pas le mien. Alors là, j'ai repris mon nom. Alors, on a beaucoup discuté avec mon mari, qui l'a très, très bien compris. En plus, c'est un nom qui est très peu connu. Il y a un nid de rejeunis dans une région qui s'appelle les Bois Noirs. C'est-à-dire que c'est à la limite du Forêt et de l'Auvergne. Et comme son nom l'indique, les Bois Noirs, des forêts profondes, des familles de bûcherons, de fermiers, etc. Et qui sont vraiment beaucoup restés dans la région. J'ai cherché sur Internet, il y a quelques rejeunis à Roanne, à Lyon. Il y en a bien quelques-uns un peu ailleurs, mais on est très peu nombreux. Alors je me suis dit, bon, eh ben, et alors voilà, on arrive à la partie inconsciente de mon éveil, c'est que moi, pendant mon enfance, moi j'aimais beaucoup mon père, qui m'aimait beaucoup aussi, mais à l'époque, la psychologie n'avait pas encore fait son apparition, et c'est vrai qu'il ne se rendait souvent pas compte de ce qu'il disait, et il disait, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un garçon, parce qu'il aurait transmis le nom. Et j'ai entendu ça souvent. Et quelque part, ça a dû faire son chemin. Ça a mis longtemps, je reconnais. Mais quand même, je me suis dit, mais enfin, cette histoire de non, bon sang, de bonsoir, c'est quand même foncièrement inégalitaire. Et c'est au fur et à mesure donc, que j'ai avancé dans mes petites responsabilités. Alors, entre parenthèses, en Ardèche, à la Fédération, à l'époque, moi, je me souviens de visages de vieux militants socialistes, d'élus aussi, qui avaient déjà leur petit notable, ça. Ils m'aimaient bien. J'étais leur alibi, j'avais des robes indiennes, c'était bien, ils étaient contents, j'étais bien mignonne, mais il fallait quand même pas toucher au système. Et comme en plus, effectivement, comme j'avançais très lentement dans cette conscience, je revendiquais finalement peu, ça allait très bien. Et quand je vois qu'il a fallu attendre 2008 pour qu'il y ait une conseillère générale en Ardèche, je me dis... un, j'ai pas beaucoup travaillé, pas suffisamment. Et deux, on vient quand même de très loin.
Ouais, ouais.
Un autre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervée quand j'étais gamine, mais que je ne remettais pas du tout en cause, c'était les surprises. J'allais à l'épicerie, il y avait les roses et les bleus, et je voulais toujours une bleue. Et je ne voulais jamais. J'ai jamais eu de surprise bleue. Et c'est pareil aussi, je me souviens très bien, et je la revois, par contre, elle a été perdue malheureusement dans les histoires familiales, mais je voulais absolument une petite voiture. Et alors, mes parents ont mis très longtemps à accéder à mon désir, hein, parce que ça ne leur paraissait pas normal.
Mais vous l'avez eue.
Je l'ai eue. Elle était jaune et bleue, elle était bien belle. Mais voilà. Et alors, pour vous dire que tout ça, c'est très compliqué, ça revient de loin. Ça, et je n'ai pas du tout baigné dans cette culture-là. Alors ça, c'est sûr. Hein, c'est sûr que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour, au contraire.
Oui, mais justement, je crois que chez vous, ça a permis le pouvoir de réversion, de permutation, je ne sais pas comment on peut dire, et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes engagé, plus qu'engagé.
Et oui, parce que je trouve que cette éducation a fait du mal. Moi, ça me faisait mal quand j'entendais ça, dire « Ah ben oui, j'aurais aimé avoir un garçon parce qu'il aurait transmis le nom ». Et c'est vrai que quand j'ai repris mon nom, mon père était toujours vivant, mais il avait du mal à m'appeler par mon nom. Il m'appelait avec le nom de mon mari. Alors ça, Alors c'est pour ça, je pense que c'est vrai que pour guérir de ces frustrations, il faudrait un peu plus d'égalité et de respect.
Je vous laisse quelques minutes pour définir Éliane Rejoni aujourd'hui, en 2013.
Vous savez combien c'est difficile de se définir soi-même.
C'est bien pour ça que je le fais.
Je dirais que je suis épanouie, sûrement plus épanouie que quand j'étais petite fille ou quand j'avais 20 ans, c'est certain. C'est certain, parce que j'ai justement avancé sur un chemin de respect et de liberté, parce que j'ai eu la chance, je le disais tout à l'heure, de rencontrer mon mari et de pouvoir avancer avec quelqu'un sur qui je peux me reposer. Parce que c'est vrai que sur le plan affectif, moi je suis quand même une écorchée vive. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui a peut-être une force apparente. Parce qu'on peut discuter sur la force des hommes et justement tout leur refouler. Hein, bon. Mais globalement, c'est vrai que je me sens plus épanouie maintenant. Comme je suis quelqu'un de lucide et de pessimiste, fondamentalement, je me dis c'est dommage parce que j'ai encore plein de choses à faire, mais je suis certaine que je n'ai pas 40 ans devant moi. Voilà. Oui, je suis contente d'être où je suis. Mais j'ai envie d'avancer encore. Et tout à l'heure, je parlais symboliquement d'aller un peu plus au sud. Et là, je suis en train de travailler sur un rêve à réaliser. Et donc, je me dis, c'est bien. Je me dis aujourd'hui, par rapport à d'autres personnes autour de moi, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance. Mais la chance, il faut la cultiver aussi, c'est vrai.
Eh bien, pour le coup, c'est là-dessus qu'on va rester, Éliane Rejoni. Je vous remercie de votre générosité,
merci
vraiment.
Merci à vous aussi.
Dans tous les sens du terme. Donc, j'informe les auditeurs que ce numéro est désormais disponible en podcast sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique Histoire et Contes, et d'Histoire et de Contes plus précisément. Éliane Rejoni, je vous propose peut-être de vous rendre visite bientôt dans les environs de Montélimar. Je reviens avec un micro parce que j'ai l'impression que vous avez encore à nous en dire. On est un peu coupé par le temps, mais vraiment merci.
Merci à vous de votre accueil si chaleureux. On a besoin quand même, quand on écrit, d'être justement reconnu. Et maintenant, justement, au point où j'en suis, je me dis que je pense que ce que j'écris mériterait peut-être même d'être écouté par un petit peu plus de personnes.
Il le mérite.
Et merci de me le permettre.
Trois euros au fond de ta poche. Si je les vole, c'est parce que t'es moche. Après-demain, j'irai en enfer. Oh, croix de bois, je l'aime pas ton sourire de cloche. Et je t'éclate très bien ta caboche. Après-demain, je vais en enfer. Oh, croix de bois, je suis la femme à barbe, celle qui pisse dans ton caniveau. Moi, la femme à barbe, ce que tu veux de moi dans ton beau métro. Il fait le coq pour nommer sa botte, mais elle est pas plus courageuse qu'une fiotte. Quand il me voit, il regarde pas. Croix de bois, il pavane le joli petit coq, mais il regarde pas toujours ses bottes. Il berluque le joli derrière. Ah, croix de bois, c'est moi la femme à barbe. Viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ta capitale? Si t'en as assez, t'as qu'à nettoyer, faire la place pour tes belles godasses. Si je te dérange pas, bah, il faut que tu ranges. Moi là, et tu me verras. Sont pas beaux tes jolis petits mioches, grassouillées, striquées comme des cloches. Je t'aurais mieux fait d'avoir un hamster. À croix de bois, quoi faire? Tu les tapes tes jolis petits mioches.
La femme à barbe, celle qui pisse dans ton caniveau, moi. La femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ton beau métro, c'est moi. La femme à barbe, viens dans ma rue, c'est le carnaval, moi. La femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ta capitale.
Et je vais arracher les têtes.